Ben moi, je trouve que la conférence est tellement parfaite que je n'ai pas envie de poser de questions.
Moi, j'avais aussi l'idée qu'on aurait pu parler un peu de Job, commencer la façon dont il a de prendre Dieu à partie, avec une très grande liberté, justement, de l'assigner presque en procès. Et donc, ça me paraissait un autre exemple qu'on pouvait encore ajouter éventuellement à cela.
Une interprétation que l'un des commentateurs pense que c'était une vision, un rêve de Jacob, que ça ne s'est pas passé en réalité, que c'est une vision qui lui a été venue parce qu'il était dans un moment d'extrême angoisse. Vous savez ce qu'on va aller dans, c'est ce moment où il va rencontrer son frère après 20 ans de séparation, un frère qu'il a quitté et qui avait promis de le tuer. Et donc, il craint énormément cette rencontre-là, d'autant plus que Esaü vient de 400 hommes, donc pas forcément avec des intentions faciles. Donc ça, c'est une première interprétation. L'angoisse, d'ailleurs, on voit bien aussi dans le texte, qu'il sépare son camp en deux parties, de telle manière que celui de plus montre quand même du sourire. Bien. Une autre interprétation, c'est de dire qu'il s'est battu avec un personnage mystérieux qui représentait le symbole même, qui représentait tout ce que c'était Esaü. Esaü, c'est la rivalité des frères, c'est quelqu'un qui parcourt la Bible de part en part. Et ce personnage-là, il se bat contre lui. Et d'autres disent que même c'est une part de lui-même qui combat. Et puis, dans la fin de texte, il dit qu'il va s'appeler Israël, simplement, parce qu'il a convaincu Dieu et les hommes. Alors, c'est peut-être dans ce sens-là que vous posez la question. Je ne me suis jamais posé cette question, savoir si c'est une question de liberté d'expression. En tout cas, si c'est Dieu qui l'a convaincu, il a vaincu Dieu quelque part. Je sais que c'est très difficile à entendre ça, surtout pour les chrétiens. Mais je vais vous démontrer à travers tout ce qu'on a vu auparavant, je crois que j'ai rien. À travers tout ce qu'on a entendu auparavant, que c'est justement la relation entre Dieu et les hommes, c'est une relation qui n'est pas du tout aussi, aussi schématique et aussi simpliste qu'on pourrait le penser. Ne serait-ce que pour cette raison, la suivante, que je vais vous donner, c'est que dans la pensée juive, dans la conception juive du monde, au moment de la création, Dieu a fait retrait. C'est la notion dont vous avez peut-être entendu parler, dont la mythologie chrétienne, je crois, parle également, cette notion du tsimtsum, c'est-à-dire du rétrécissement, de la contraction de Dieu sur lui-même. Dieu se retire en quelque sorte, au moins partiellement du monde, de manière à laisser place à l'homme, à son action, à son initiative. Et il y a, justement, je parlais de l'idée que l'on a habituellement au départ de dissymétrie entre l'homme et Dieu, il y a quelque part, d'une certaine façon, dans la conception des choses, dans la conception du monde, ce que c'est le judaïsme, il y a l'idée qu'il y a, d'ailleurs, elle est très très fortement formulée, l'idée d'un partenariat entre Dieu et l'humanité. Un partenariat qui fait que l'humanité est chargée de mener à bien une création que Dieu lui a livrée inachevée, imparfaite, et sans latin du doigt. Et que c'est à l'homme de la perfectionner et de rendre ce monde habitable. D'accord ? Donc on a pas seulement cette dissymétrie, on a une volonté de Dieu de se faire petit en quelque sorte, pour laisser place à l'ordre, parce que nous menons même du dialogue. Quand on veut instituer un dialogue, on est bien obligé de se mettre en retrait, sinon on ne laisse pas l'autre parler. Ou alors on fait semblant de laisser parler. Et un vrai dialogue implique qu'il y ait des moments de retrait de celui qui parle et qu'on nous en écoute. Là, si ça vous satisfait. Alors la deuxième question, oui, bien sûr, j'aurais pu l'évoquer. Je signale un très beau livre qui s'appelle L'autre Dieu, que certains ont peut-être lu. Pardon ? Voilà, merci de me rappeler le nom de l'auteur que j'ai rencontré. J'ai intervenu avec elle dans la librairie de la ville. Et c'est un merveilleux livre, c'est un petit livre pas très gros. Elle a travaillé sur Job, justement, sur le livre de Job. Et elle a pensé ce livre de Job, ou travaillé ce livre de Job à la lumière de son expérience de mère. Ça a été un livre qui a de très graves difficultés par rapport à un de ses enfants. Et c'est extraordinaire, ça a été une découverte pour moi, vraiment. Et le dernier point, Marion Vercellard. L'autre Dieu. Et la question du dogme, non, il n'y a pas vraiment de dogme, il n'y a pas, comment vous dire, on pose comme, je veux dire, comme postulat de départ, l'idée que le monde a eu un commencement, c'est l'idée de la création à ce niveau, qui est reprise, qui est poursuivie par les chrétiens également, et qui a constitué un point d'achoppement, cette idée, avec la philosophie aristotélicienne, philosophie qui a été le passage obligé de la pensée pratiquement jusqu'au 17e du 18e siècle. On ne pouvait pas penser en dehors d'Aristote. C'est vrai pour les juifs, c'est vrai pour les chrétiens, c'est vrai pour les musulmans. Il y a eu chez les juifs le très grand Maïmonide au 18e siècle. Et concomitamment, il y a eu Saint-Thomas-d'Aquin pour les chrétiens et Averroès pour les musulmans, qui d'ailleurs se rencontrent. Et c'est tout à fait extraordinaire de voir comment il y a des points de convergence entre ces trois très grands, ces trois géants de la pensée, mais qui sont tous les trois, et ça ne peut pas être autrement, habités par la pensée aristotélicienne. Je reprends le point où j'en étais. Donc, on parle du principe que le monde est créé. Pourquoi c'est important de poser ça comme principe de départ? Parce que si le monde a un commencement, je insiste, un début, eh bien, il est autorisé à continuer, il peut continuer et il peut changer. Tandis que dans la vision aristotélicienne, il y a cette idée de l'immuabilité, de l'immobilité du monde. C'est-à-dire, le monde change, et l'homme change, et l'humanité change, et c'est aussi, évidemment, l'idée de l'aboutissement mécanique. Qu'est-ce que c'est que l'aboutissement mécanique? C'est l'idée que le monde progresse, que la science progresse, que les hommes ont la responsabilité de faire progresser, et que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Voilà, en quelque sorte. C'est ça, tout ce qui est contenu dans l'idée, quand on dit que le monde a été créé, c'est tout cela que c'est un but. Il y a un autre postulat de départ, c'est que le peuple juif, le peuple des Hébreux, d'où est issu le peuple juif, enfin, ce qui a donné le peuple juif, s'est tenu tout entier devant le Sinaï et a reçu la loi après la libération. Il y a cette corrélation que j'ai soulignée déjà tout à l'heure entre la libération obligatoire, je veux dire par là que il y a une loi dans la Torah, dans la Bible, qui dit qu'un esclave qui refuse d'être libéré, eh bien, on lui cantonne l'oreille. Et le commentaire dit parce qu'il n'a pas voulu écouter la voix qui lui dit d'être libre. C'est quand même assez impressionnant. Se libérer, c'est une obligation. Sinon, on reste à un niveau indigne d'humanité. Se libérer et ensuite se libérer pour recevoir la loi, c'est-à-dire pour accepter une ligne de conduite qui soit limitée, qui soit restée, qui soit encadrée par la loi. D'accord ? Voilà. Autrement, non, il n'y a pas de dogme. pas de bon. Je veux dire, on est obligé de croire à rien quelque part. Hein. Voilà. Entre autres choses, là, ça vous savez sur moi, la foi est beaucoup moins importante que les juges que les croyants. C'est important, c'est un, de se dire, c'est-à-dire de se confronter à des tests pour se sentir, hein, on va dire ça comme ça, et d'agir. Lorsque l'écriture s'appelle les œuvres. Et la foi, c'est entre guillemets secondaire. C'est pas un point de départ obligé, et c'est pas quelque chose comme ça de massif. Il y a mille façons de croire.
Sa communauté, il a excommunié, pourquoi?
Alors, Spinoza était un marane. C'était un marane, je pense. Je pense que Christo juif, c'est juste que qui ont vécu en Espagne ou au Portugal et qui ont été contraints de vivre une double vie, c'est-à-dire de se conduire comme des chrétiens, mais de cultiver secrètement une vie juive dans la mesure où ils ont pu le faire. Donc Spinoza était un marane, un fils de marane, et il était installé à Amsterdam. Il faut savoir que les marins, on ne le sait pas toujours, que les marins ont eu beaucoup, beaucoup de problèmes d'adaptation. Ils sont arrivés parfois après plusieurs générations, souvent après plusieurs générations de marins. C'est-à-dire qu'en plusieurs générations, ils tenaient plus que tout à garder leur identité juive, mais dans des conditions extrêmement difficiles et aussi extrêmement dangereuses. Parce qu'un juif qui était un ex-juif, converteur, quand ils étaient dénoncés par des voisins, ou quand ils étaient convaincus d'avoir judaïsé, comme on disait, ils étaient jugés par l'inquisition, qui les confiait au bras supplié, puisque l'inquisition les brisait d'elle-même, et ils passaient sur le cité. Donc, ceux qui sont partis se sont réfugiés, entre autres, à Amsterdam, aussi dans certaines principautés d'Italie, beaucoup à Amsterdam. Vous savez qu'Amsterdam, à cette époque-là, était vraiment la terre promise, et pour les protestants persécutés, et pour les juifs également. Il faudrait que vous relisiez la lettre que Descartes a envoyée quand il a visité Amsterdam, où il était absolument stupéfait de voir qu'on pouvait pratiquer la liberté d'expression, comme il disait, qu'on pouvait dire se comporter sans être inquiété par ni un pouvoir politique ni un pouvoir politique. Ce que je disais, c'est que quand les marins sont arrivés et qu'ils ont pu tomber le masque, voilà qu'ils tombent dans des communautés, ils arrivent dans des communautés juives, et que ce judaïsme qu'ils rencontrent ne correspond pas à celui qu'ils rêvaient, celui dont ils rêvaient. Parce que le judaïsme qu'ils vivaient dans les pays, en Italie et au Portugal, c'était un judaïsme tronqué par rapport à celui qu'on vivait dans le monde. Il y avait une façon qui se vivait. Et donc, ils se retrouvaient complètement à porte-à-faux. Ils ne se sentaient absolument pas chrétiens. Le christianisme, ça représentait ce à quoi on les avait forcés. Et donc, ils nous avaient donné un autre temps de parler. Et voilà qu'arrivé en Mongolie, ils n'étaient pas toujours non plus. Et il y a eu des marins, par exemple, un qui est célèbre, qui s'appelle Uriel Batista, qui s'est suicidé parce qu'il ne trouvait pas sa place, il ne l'assumait pas. Et d'autres, un autre, qui s'appelle Jean de Prado, qui était médecin, a versé un peu dans le cynisme, dans la moquerie, avec une vague extrêmement douloureuse. Spinoza, lui, il a été en plus au même problème. Il était en plus absolument un philosophe génial. Et il a donc écrit des livres dans lesquels il a été le premier ou l'un des premiers à appliquer la critique historique à la vie. C'est évidemment a été mal reçu, mais pas seulement mal reçu par les juifs, il faut savoir, mais par les protestants également. À Amsterdam, là, on avait une république, mais qui était, les protestants étaient une république de protestants. Et ça a été très très mal reçu aussi par les protestants. Si bien que, et un deuxième point encore,
Spinoza qui a été donc mal perçu, mal reçu, mal accueilli par les juifs, a écrit des choses extrêmement dures, en particulier dans les testaments théologico-politiques. Il a des attaques qui confinent quasiment à l'antisémitisme. Il faut regarder, hein. C'est virulent, violent, on peut le comprendre parce que lui-même le fait, bien sûr, mais ça aussi, les juifs ne lui ont pas pardonné. Et ajouter à cela la peur qu'avaient les juifs, malgré tout, même s'ils vivaient dans une totalisation, la peur que ce statut de liberté ne leur soit de nouveau contesté parce que l'un des leurs, ils sont en train de faire scandale. Voilà, c'est ça. Et je vais faire un dernier point encore, c'est que. Qu'on appelle l'excommunication, en hébreu c'est le cherem, qui s'est plus souvent pratiqué. Le Jean de Fragot, dont je vous parlais tout à l'heure, et également Corinne d'Africa, ont aussi suivi un cherem, tous les deux. Mais ça a été pratiqué dans ce cadre-là, en particulier à cause de ce que je vous ai dit. D'accord ? Vous avez. Non, c'est pas ce que je veux dire. J'ai évoqué cette histoire de Spinoza dans un premier roman que j'ai écrit, qui s'appelle Café composé. Et où je fais intervenir, c'est le roman qui passe à cette époque-là à Saint-Jean, où je fais intervenir Spinoza, et c'est une période que j'aime énormément, et que je trouve, qui à mon avis a de des points de proximité très grandes avec le monde d'aujourd'hui. À cause du gouvernement d'idées, à cause des débats, des
y a-t-il des limites, des interdits dans les critiques faites à Dieu, dans l'opposition qu'on peut avoir à Dieu, dans la Bible?
Alors,
il n'y a pas de limite.
Comment ça veut dire? Oui, est-ce qu'il y a des limites? Oui, la question c'est, est-ce qu'il y a des limites dans la critique faite à Dieu? Le blasphème. Le mot blasphème, évidemment, est connoté maintenant. Voilà. Blasphémer, je ne sais pas encore regarder ce que ça veut dire vraiment blasphémer, mais le blasphème est quelque chose d'interdit. D'accord ? Ce que je vous ai montré, c'est une entrée en conversation avec Dieu. Une contestation ou une mise en question de Dieu, mais vous remarquez qu'elle n'a jamais été faite sur le mode de la négation ou de la violence. Et aussi bien ce que fait Abraham, que ce que fait Moïse, ça reste respectueux, ça reste dans le cadre d'un dialogue. D'accord ? Il y a un petit livre qui est paru aussi il y a peut-être une vingtaine d'années, qui s'appelle Le Seigneur à couvert par la Bible. C'est un tout petit livre. C'est l'histoire d'un personnage qui est dans le ghetto de Varsovie pendant la Shoah. Bon, et qui, le livre, c'est ce personnage qui s'appelle Le Seigneur à couvert par la Bible, et il nous dit en suspens. Ah, tu veux me décourager, tu veux me décourager de respecter ta Torah, mais tu n'y arriveras pas. Tu peux me faire tout ce que tu veux, je resterai fidèle à ta Torah. Donc, vous voyez, comme c'est une révolte, une mise en question de Dieu, mais qui s'exprime dans la volonté absolue de rester fidèle à la Torah. Mais il parle à Dieu et il le pardon? Il rejoint de tout. D'ailleurs, Job, oui, c'est un verset dans le groupe, Job dit à Dieu, j'ai toujours fait ce qu'il fallait, comment se fait-il que je touche la marine, etc. Et Dieu le répond à un moment donné. Ce sont des questions évidemment très très complexes. Je voudrais pas que vous compreniez ce que je n'ai pas dit. Il ne s'agit pas. Je ne parle pas du tout de la notion de la mort de Dieu. C'est quelque chose de complètement différent. C'est quelque chose qui est contemporain et qui n'a rien à voir, je crois. Vraiment rien à voir avec ce que j'ai dit là. La critique de Dieu, vous me demandez si elle a des limites. La parole adressée à Dieu, même de mise en question, on voit bien qu'elle n'a pas donné. Et il y a dans le texte du cours d'Arnal, le texte de Dieu que je vous ai cité, où les rabbins, ils le font poliment, si vous voulez. Le rabbi Yoshua dit à Dieu, Dieu qui prend, est-ce qu'il voit lui, c'est même de ce que nous, les hommes, faisons. Il est écrit dans la Torah que la Torah n'est pas au ciel. Il est écrit dans un autre endroit qu'on suivra la voie de la majorité. Alors, respecte les règles du jeu. Et ce n'est pas considéré comme ça n'est pas inacceptable, bien au contraire. Je ne sais pas comment tu peux répondre plus à cette question. Ce n'est pas du blasphème, voilà. C'est ça que je veux dire.
Aujourd'hui, la tendance à montrer facilement des blasphèmes et des civilisations se permettent d'être très sévères vis-à-vis de personnes qu'elles pensent. Ces personnes ont blasphémé, c'est pas
évident. Alors, la notion de blasphème, on peut plus la séparer maintenant de ce qui s'est passé avec Carlotto, avec le caricateur de Mahomet, et avec l'accumulation des blasphèmes, qui a été lancé sous l'inconnu. Le blasphème, c'est de dire que Mahomet a eu des trois femmes, etc. Le blasphème, c'est pas du tout ça dans la Torah. Je ne saurais même pas vous dire ce que c'est exactement. Il faudrait l'étudier de près. En tout cas, dire que Dieu n'existe pas, ce n'est pas un blasphème. Quelqu'un vous répondra vous dire de dessus, mais ce n'est pas un blasphème. C'est quelque chose qui a été instrumentalisé par les islamistes en particulier. Vous savez, d'ailleurs, je vous montre très rapidement une parenthèse, je vous montre un vrai sujet très rapidement. Vous savez, cette histoire de caricature de Mahomet, ça a été fait par un journal danois. Et ça a passé complètement inaperçu, tout simplement parce que c'était un journal danois qui n'avait pas une grande diffusion, et que ça n'a pas... Et dans un deuxième temps, certaines des victimes, dont on peut deviner les intentions, ont rendu public, ont diffusé ces caricatures de Mahomet, et ont suscité des manifestations de foule qui ont fait des morts dans certains pays arabes. C'est à la suite de cela que sort le doigt de ces caricatures. Mais dans un premier temps, le blasphème n'a pas été ressenti. Ça a été monté, c'est quelque chose qui a été monté. Et on retrouve évidemment, il s'agit ici de toute cette instrumentalisation du religieux à des fins politiques.
Ce que je voulais dire, c'est que dans le judaïsme, il me semble que la seule limite acceptable ou non acceptable, c'est la mise en question de l'existence. Non.
Il y a encore une question que je pose absolument pas, ni dans l'état de Dieu, ni dans l'état de Dieu.
Exactement, mais je pense que c'est là que Spinoza a transgressé, allé au-delà. Dieu, il a parlé de la nature. Il a
oublié
l'existence de Dieu par la nature. C'est la nature de Dieu, en fait, qui elle est mise en question, on a dépassé la limite. Je pense.
C'est une nature. La chose sur laquelle on prend la réalité, par exemple, dans ma menu, mais ça se retrouve, c'est qu'on ne peut rien dire. Dieu n'est pas descriptible, définissable. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que les chrétiens appellent l'imitation de Dieu. Ça veut dire soit juste parce qu'il est juste. Mais ce qu'on peut dire de Dieu, en fait, c'est ce que les hommes, c'est ce que les êtres humains doivent faire. Autrement, Malmonide dit qu'il échappe à toute saisie, à toute appréhension. La seule manière de se rapprocher de Dieu pour un juif, c'est d'agir, de pratiquer les mitzvot, c'est-à-dire d'être dans l'action. Je ne crois absolument pas que. Écoutez, on peut penser ce qu'on veut. On peut ne pas. Qu'est-ce que ça veut d'abord dire croire à Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme Dieu. un dieu qui est comme ça dans les nuages, qui distribue des combattants ou des récompenses. Est-ce que un être, justement, qu'on ne peut absolument pas, qu'on n'a pas le droit de se représenter, ça c'est vrai. Interdiction absolue de se représenter, et ça demande un effort énorme à tout le monde d'essayer d'émerger de la représentation. Et ça, c'est un effort qui est demandé. Oui, effectivement, porter de la figure de Dieu. Donc là, chacun croit comme il peut, dans le contexte où il est, on est forcément influencé par le milieu, par l'époque, dans laquelle on vit. Mais ce qui me semble extrêmement précieux, c'est que quelle que soit la manière de croire ou de ne pas croire, eh bien, c'est peut-être ce qui se dit là, à travers l'affrontement, la confrontation permanente qu'on a avec eux, qui permettent de se comprendre. Je vais donner un exemple très rapide. La lutte contre l'idolâtrie, c'est vraiment c'est insistant dans le texte biblique, associé à l'idée de se dédier à Dieu, de ne pas courir après d'autres dieux, etc. L'idolâtrie, elle est vilipendée de cette manière-là parce qu'elle est associée et dans la Bible et dans les commentaires du livre à travers les années. Elle est toujours associée à quelque chose qui est l'anti-éthique. L'idolâtrie, c'est le culte sacrificiel d'enfants, Moloch, par exemple, de la prostitution cachée, c'est en définitive le culte de la nature. Qu'est-ce que c'est que le culte de la nature? C'est adorer le soleil, la lune et les étoiles, mais à travers cela, se résigner ou adhérer à un ordre du monde déterminé, voilà, parce que c'est toujours pareil, c'est toujours de la même manière, et à la nature, adhérer à la nature, donc c'est accepter l'ordre de ce qui est, la force, la contrainte de ce qui est. Même chose pour la nature humaine. Pour faire la phrase qu'on entend tellement souvent, c'est bon parce que c'est naturel. Ben non, c'est pas bon parce que c'est naturel. Justement, on nous demande à nous, êtres humains, juste êtres humains également, de non pas détruire la nature, bien sûr, mais de lutter contre elle et de la canaliser. C'est pas parce qu'on a des passions, des pulsions, qu'on doit forcément y céder. À partir de là, l'idolâtrie décrite ainsi, vous comprenez que ça ne peut être qu'en synonyme avec le judaïsme, qui lui, défend l'idée d'un Dieu absolument distant et différent des êtres humains, transcendant à l'humanité. Et alors, je vais vous dire maintenant, tel que je conçois la chose et tel que je réfléchis la chose, au minimum, à minima, adhérer à ces dieux-là, c'est refuser d'intégrer les divinités asservissantes de toutes les idolâtries, toutes les idoles. Lisez par exemple le livre de Jean-Claude Bigot qui s'appelle La force de conviction. Vous allez voir un petit peu comment quelqu'un qui est chrétien, et qui n'est pas un chrétien pratiquant de foi, un philosophe, comment il perçoit les idoles d'aujourd'hui, quelles sont les idoles d'aujourd'hui. Et vous avez d'autres livres que j'avais en tête et que je ne viens pas maintenant, d'autres textes qui montrent bien cette différence, non pas de degré, mais de nature, entre l'idolâtrie, qui est le culte et l'adhésion à la nature, et le monothéisme, là c'est un concurrent complet avec certains auteurs chassés à leur accès, le monothéisme qui est la possibilité de se libérer de ces empreintes-là.
le rabbin estimait que Dieu n'avait pas à décider de la manière de, d'interpréter, enfin oui, de ce que c'était à faire ou pas, et c'était au rabbin de le faire. Alors, ça fait comprendre aussi que même dans les autres religions, c'est pas Dieu qui s'imposait en fait. Même chez les catholiques, c'est l'Église qui a décidé des choses, ils se sont en somme passés de l'esprit de Dieu, de la vie de Dieu.
Oui, il y a eu le moment de Dieu, on va dire ça comme ça, et puis que Dieu, sa propre volonté, a lancé l'humanité dans l'aventure de la construction, de sa propre construction. Et à partir de là, il doit accepter les risques, il accepte les risques inhérents, les hommes, si les hommes sont libres, eh bien Dieu court le risque d'être nié par les hommes. Mais il a fait ce cas. Et quand on dit que Dieu a voulu que les hommes soient libres, on dit en même temps qu'il a pris ce risque pour lui-même.
À cette liberté de choisir d'un avenir, de se construire, mais on est quand même enfermé dans des rituels.
On est toujours enfermé dans des rituels. Tout le monde est enfermé dans des rituels. Pas seulement les juifs. Indépendamment même des religions, il y a des rituels. Si vous regardez, si vous examinez un peu de l'extérieur, enfin d'autres, vous voyez qu'il y a des rituels et qu'on a besoin de rituels et pour se construire et pour vivre.
Les rituels ont été beaucoup critiqués, moqués, décrédibilisés avec l'idée de la mort de Dieu. D'abord avec l'idée, quand le christianisme a voulu, à cause de la théologie de la substitution, a voulu séduire le véritable Israël, et que, comme vous le savez, la loi a été abolie par Paul. Et pendant des siècles, on s'est moqué des lois des Juifs. De Gauthier, par exemple, ou un autre évêque de Daniel, qui pourtant est en contact très proche avec le rabbin d'Amsterdam, justement, dans l'Afrique d'Amsterdam. Bon, ça a été beaucoup, beaucoup moqué, et ça a été encore plus moqué avec le 19e siècle, le 18e, avec les idées de la mort de Dieu qui venait, et puis aussi avec les Lumières, quand Voltaire dit très ironiquement. Ceux qui adorent Dieu en se prosternant à genoux, ceux qui l'adorent en se mettant debout. Bon, il y a eu l'influence de Voltaire, elle était très très importante pour la Dieu. Pardon ?
Dans la prière à Dieu.
Dans le scénar philosophique. Très beau texte d'ailleurs. Et donc, on ne s'est pas rendu compte que les rituels, il y en a absolument partout, toujours, que sinon, c'est une condition même de socialisation. Alors, en ce qui concerne votre question, le rituel n'empêche absolument pas la liberté. Le rituel intègre dans un groupe social. La liberté, comme que j'ai décrit ici, la liberté d'expression, c'est. Alors, il y en a plusieurs que j'ai évoquées. Il y a la liberté de l'homme vis-à-vis de Dieu. L'homme a le droit d'interpeller Dieu, et même ça fait partie de sa liberté, ça n'a rien de choquant. Il y a la liberté d'interprétation qui est absolument fondamentale. Dans le judaïsme, si la loi est contraignante, il y a l'unité des juifs dans l'obéissance à la loi, il y a une extraordinaire liberté d'interprétation. Et si tu dis que quand tu as des livres, bon, si tu dis qu'il n'y en a pas en français ou très peu, et même quand on les prend, les traductions françaises, c'est très déstabilisant parce que ça se présente comme je vous ai montré tout à l'heure, à travers l'histoire du four ou à travers l'interrogation, le combat des gladiateurs, ça se présente souvent sous une forme narrative et il faut évidemment, comme on est plus instruit, décortiquer pour comprendre de quoi il s'agit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a constamment ces interprétations, parfois complètement opposées. Et que dire qu'un texte signifie ceci, ça ne veut pas dire que l'autre interprétation est fausse. Ça veut dire qu'il y a plusieurs facettes à la vérité. Ça, c'est extrêmement
comprends. Et je n'ai pas d'être enfermée dans le jardin.
Pour en revenir à la spiritualité de Voltaire, est-ce que ça n'est pas aussi une voie d'accès à la tolérance?
Alors, oui. On va prendre les deux questions ensemble.
Pardon.
Je rappellerai quand même que Voltaire a été très dur contre les Juifs, extrêmement faisant aussi certaines de ses déclarations, c'est vraiment de l'antisémitisme, il n'y a aucun doute. Alors, on peut être à la fois tolérant, vouloir la tolérance, ça n'est pas normal, après tout, mais je ne renie rien de ce qu'il a écrit concernant la partie de ce texte-là, mais d'autres également. Par ailleurs, il a fait des pages magnifiques contre l'esclavage, mais lui-même, c'est. Voilà, alors c'est comme ça, hein. Il faut prendre des gens pour prendre ce qu'ils ont de bon à donner, mais ne pas les prendre sur des modèles. Voilà. Et la deuxième question, alors je crois avoir déjà donné un embryon de réponse, c'est que d'abord, il n'y a pas de gendarmes dans la chaise, il y a des actifs qui ne pratiquent pas du tout, pas beaucoup. Il y a toutes sortes de juste une prédivisée, hein, c'est pas. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le Nisvot, c'est la concrétisation de la nécessité de se fier à une loi. Au minimum à une loi, et au sens plus propre à la loi divine. C'est quoi dire que la loi est divine? Là encore, c'est dire quoi que la loi est divine? Au minimum, c'est dire que l'idée de loi, on ne peut pas s'en passer. Ça n'existe pas. Les illusions de. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, des groupes qui voulaient. Les anarchistes, par exemple, c'est bien que ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner, ça n'existe pas. Une société, quelle qu'elle soit, même petite, ne peut pas fonctionner sans qu'elle soit encadrée par des lois, sinon c'est la loi du plus fort. Ou c'est la loi, ou c'est la loi du plus fort. Pardon,
c'est une autre forme de loi.
Mais c'est la demande, voilà, c'est éminemment, c'est la même chose que ce que je disais de la prime.